Bonsoir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a fermé le week-end dernier plus de 150 universités et instituts supérieurs à travers le pays. Selon le professeur Théophile Mbemba, ces établissements ne sont pas viables et la plupart sont des extensions installées dans les cités et villes du pays. Quelle analyse faire de cette décision? Pour en parler, je reçois professeur Nadège Ngombe Kabamba. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Professeur Oscar Nsaman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et recteur de l'université du CEPROMAD, également président de l'association des universités privées agréées de la RDC. Professeur Moïla Chiemdé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Fermeture samedi dernier d'une centaine d'universités et instituts d'enseignement supérieur à travers la RDC. Ainsi en a décidé le ministre Théophile Mbemba qui estime que ces établissements ne sont pas viables et la plupart sont des extensions installées dans les cités et villes du pays. L'arrêté ministériel porte aussi fermeture des auditoires qui fonctionnent en dehors de leur site universitaire. Michel Kifindangoy.
Il s'agit des 147 extensions des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que 14 auditoires délocalisés. À Kinshasa, les extensions de l'ISES de Lubumbashi et de l'Université de la Paix de la RDC basée à Goma sont interdites de fonctionner. Dans l'ancienne province du Bandundu, 28 extensions, dont celle de l'Université du CEPROMA, sont aussi concernées par l'arrêté du ministre. 10 extensions, dont celle de l'IFASIC, sont aussi concernées dans l'ancienne province de l'Équateur. 16 extensions de l'ex-Kassai oriental et 12 de l'ex-Kassai occidental, dont l'université Simon Kimbangu, extension de Kananga, n'ont pas été épargnées. Alors que 40 extensions sont fermées au sud Kivu et 37 dans l'ex-province orientale, dans l'ex-Katanga, 5 extensions seulement sont fermées. Par ailleurs, les 14 auditoires délocalisés interdits de fonctionnement concernent les anciennes provinces du Katanga, Kassai oriental, province orientale, ainsi que le sud Kivu.
Merci Michel Kifindangoy, professeur Nadège Ngombe Kabamba. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Professeur, qu'est-ce qui motive cette décision du ministre?
Oui, la décision, en fait, ce qui a motivé cette décision du ministre est très simple. C'est les désordres qui est observé actuellement dans notre secteur éducatif du supérieur. Là où on peut se réveiller un matin, on apprend qu'il a été créé dans tel coin de la République une institution d'enseignement supérieur universitaire. Et cela sans autorisation préalable du ministère de tutelle. Alors, ça, ces mots-là, donc, cette création anarchique fait partie d'une trentaine de mots que Son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a eu à mettre en exergue depuis qu'il est à la tête de ce ministère.
Alors, quels sont les critères sur lesquels le ministère s'est basé pour dresser la liste de ces universités concernées?
Bon, je dirais, en matière de critères, il est établi que pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, il faut remplir plusieurs conditions. Entre autres, il faut avoir l'infrastructure adaptée, il faut avoir un personnel enseignant qualifié et qui doit être permanent, et puis il y a beaucoup d'autres critères. Alors, ce qui a amené à ce qu'on puisse fermer ces extensions et ces auditoires délocalisés, c'est en grande partie ces extensions et ces auditoires délocalisés fonctionnent sans autorisation préalable de la tutelle.
Mais, professeur, quand on lit l'arrêté, on voit par exemple l'extension des plusieurs universités qui sont ici à Kinshasa, qui s'étendent en province et qui sont concernées. Comment vous expliquez ce cafouillage?
Ah, ok. Merci pour cette question. Là, vous me permettez au fait de revenir à l'histoire de notre enseignement supérieur. Vers les années 1990, la politique éducative du gouvernement était celle, c'était la politique des SEMAJ. Vous saviez qu'à l'époque, nous n'avions que trois grands sites universitaires. Nous avions le site de Kinshasa, le site de la province orientale, donc de Kisangani. Et le site de l'université de Lubumbashi. Imaginez un peu l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est pratiquement un sous-continent, et que toute la jeunesse congolaise devait soit aller à Kinshasa, soit à Kisangani, soit à Lubumbashi pour étudier. Le gouvernement à l'époque a pris cette décision pour permettre à la jeunesse congolaise qui se trouve partout de pouvoir étudier. C'est ainsi qu'il y a eu cette politique des SEMAJ, que nous puissions avoir beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur universitaire à travers le pays et permettre à la jeunesse congolaise d'étudier non loin son lieu de son domicile. Alors, l'État a effectivement pris cette décision, mais il a été aussi constaté que quand l'État prend cette décision, il y a des mesures d'encadrement, mais il y a aussi des compatriotes qui ne respectent pas cette décision. Parce que l'État a créé, donc il y a eu des établissements du secteur public que l'État a créé, mais l'État a encouragé aussi ce partenariat privé, a fait appel aussi aux privés, parce que les privés, le secteur privé fait partie des partenaires privilégiés du système éducatif de notre pays. Donc les privés ont aussi demandé l'autorisation de créer, d'ouvrir, de faire fonctionner des établissements d'enseignement supérieur universitaire, mais le secteur public aussi. Mais ce qui a été remarqué, c'est que nos compatriotes n'ont pas respecté les textes en vigueur pour ouvrir, pour faire fonctionner un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Je venais de citer quelques points saillants de ces conditions pour pouvoir ouvrir un établissement d'enseignement supérieur et universitaire.
Alors, on est là à plus de 150 universités et instituts d'enseignement supérieur fermés. Peut-on dire que l'État a laissé faire? Parce que pour certains, ils vont brandir les autorisations qui leur ont été conférées.
Non. L'État n'a pas laissé faire. Si je me reviens encore à l'histoire de l'enseignement supérieur universitaire, je vous dirais qu'en 2010, le prédécesseur du ministre, le professeur Théophile Bemba, à l'époque c'était le professeur Machako, a eu à faire mener une enquête de viabilité sur terrain. Et cette enquête avait amené à ce qu'on puisse fermer encore autant d'institutions qui étaient déclarées non viables.
Et déjà à l'époque, ça soulevait un grand tollé.
Ça soulevait un grand tollé, mais je pense que quand il faut appliquer la loi, il faut l'appliquer sérieusement.
En parlant de la politique des SEMAJ, c'est vrai, l'initiative est venue de l'État lui-même. Peut-on que dans la pratique, ça a été mal appliqué?
Je ne sais pas dire que dans la pratique, ça a été mal appliqué, mais je veux dire que nous, les Congolais, nous avons exagéré. Nous n'avons pas voulu respecter les textes établi à cet effet. Parce que ce qui était prévu, on crée des extensions, c'est vrai, on a des auditoires délocalisés, mais c'est pour que dans un délai bref, ils soient autonomisés. Et pour être autonomisé, il faut répondre effectivement aux critères d'un établissement viable. Mais on a constaté qu'il y en a qui ont exagéré, qui ont pratiquement, je peux dire, eu un malin plaisir à continuer à délocaliser, à produire des extensions. Et voilà, nous assistons maintenant à ces désordres-là caractérisés qui a amené le professeur Théophile Bemba, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, à prendre cette décision urgente que de fermer.
Professeur Oscar Saman, vous êtes député national et recteur de l'université du CEPROMAD. Vous êtes également président de l'association des universités privées agréées de la RDC. Comment vous avez accueilli cette décision? Je vous vois sourire.
On voit, bon, il y a des raisons de sourire. Parce que je me pose d'abord la question de savoir quelle casquette il faudra porter pour pouvoir répondre à votre question. Et c'est la casquette des députés.
Si c'est possible, mettez-les toutes.
De tout ça. Alors, si il faut mettre les tout, ça y est. Et par exemple, si vous sentez un certain dérapage, il faut comprendre ça, parce que j'ai plusieurs casquettes.
Voilà.
Alors, partant de là, Je commencerai par dire que je vais tout d'abord et avant tout orienter mon débat tout en portant les casquettes scientifiques, les casquettes d'un professeur d'université. Alors, la question est de savoir comment j'ai accueilli la décision de ministre des tutelles en ce qui concerne la fermeture exactement arrêtée 122 et 123 du 17 octobre.
Vous êtes certainement déçu.
Pas du tout déçu. Pas du tout déçu. Mais plutôt désolé d'un côté et satisfait de l'autre.
Commençons par la désolation.
Commençons par la désolation, c'est dire que le ministre est parfois mal servi, mal informé par ceux qui devaient lui donner des indications, les matériels pour prendre sa décision. Par exemple, si n'existe pas un homme, vous dites il y a un homme, c'est une mauvaise information. Si vous dites qu'il y a un IGA, c'est pommade à Bukavu, alors que l'arrêté qu'on a parle de l'université du Sepomad à Bukavu. Vous avez donné une mauvaise information. Si vous dites que le professeur Saman a créé une extension à Kaina, le professeur Saman ou le conseil d'administration du Sepomad n'a jamais entendu parler de Kaina, jamais entendu parler de Kiwanja. Tout ce qu'on a cité là comme extension
du Sepomad, notamment pour le moins que c'est cas-là.
Du Sepomad, on ne connaît pas, à l'exception de deux, Haru et Maagi, dont le dossier est dans les pipelines pour l'autonomisation. Alors, à ce moment, nous disons
qu'il y a un problème.
Il y a un problème. Et le problème, c'est là où, je dirais, qu'on informe mal les ministres. C'est-à-dire, en criant ces promades, vous créez un dommage. Parce que si ce n'est pas les ces promades, il faut chercher qui a fait ça exactement. À la rigueur, aller à la source, poser la question aux sepromades. Kiinja là-bas, c'est quoi? C'est toi. Kaina, c'est quoi? C'est toi. Si ce n'est pas moi. Il n'est pas dit que tous ceux qui sont noirs sont congolais. Alors, quand vous criez, vous dites tout simplement, eh bien, ceux-là, parce que ça s'appelle sepromade, il y a ceci, cela, c'est ça, même sans vérifier, c'est là qui est l'erreur.
Et donc,
c'est pourquoi, non, j'arrive à la conclusion pour dire, avant de m'arrêter, parce que vous m'aviez dit de commencer par le négatif, maintenant le positif, c'est que je dirais coup de chapeau au ministre. Félicitations. Parce qu'en publiant cet arrêté ici, il a permis aux sepromades et aux autres, certainement, de découvrir qu'il y avait des magouilleurs, des gens qui étaient en train d'utiliser abusivement l'étiquette du Sepomad pour pouvoir se faire du beurre. Ce qui est terrible et c'est poursuivable. Surtout que le concept de Sepomad est breveté. Alors, encore plus heureux, les ministres, par son arrêté ou par ses actes, n'a touché à aucune université du Sepromad ou université autonome faisant partie du réseau Sepromad qui a été agréée dans les normes et qui a été soumise à ce qu'on a appelé audit organisationnel qui était organisé avec compétence de 2009 à 2011.
Alors professeur, vous êtes président de l'association des universités privées agréées de la RDC. Il y en a combien sur toute l'étendue de la République? Et vous dites qu'il n'y en a aucune qui a été reprise là.
Non, attention. Ne me mettez pas les paroles dans la bouche. Je n'ai pas dit aucune n'a été. Vous avez posé une première question. Il y a combien d'universités privées? je dirais, à ce moment-là, agréé, tout en partageant le point de vue de la DIRCABA, nous sommes en train de osciller aux environs de 850-900, une fois pour dire...
Sans trop de précision.
Oui, c'est pour vous dire que l'administration sert parfois mal les ministres. Parce qu'il n'y a encore personne qui m'a dit ou qui peut déclarer avec certitude combien il y en a. Nous nous contentons de l'à peu près. Ce n'est pas le travail du président des universités privées. Et d'autant encore plus que l'association est libre. Les gens s'y adhèrent librement. Alors,
et donc il y a un certain désordre à votre niveau aussi qui est organisé.
Non. Nous sommes une association. L'adhésion est libre. Et nous aussi, nous avons des critères pour accepter. Par conséquent, ceux qui sont avec nous savent qu'il y a des limites en tout. Et je vous donne un exemple.
Très rapidement.
Je vous donne un exemple très concret. Dans notre association, ceux qui sont avec nous, nous avons choisi d'abord une université qu'on appelle la fille aînée. C'est l'UCC. Au lieu d'aller chercher l'eau à Lourdes, aller à Bologne, nous avons estimé que l'assurance qualité, il faut commencer partout près de nous. Alors le modèle de ce UCC, nous essayons de suivre tout ce que l'UCC nous dit et l'UCC nous donne des indications.
Merci professeur. Je vous arrête par là pour donner la parole à professeur Moïda Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez cette décision du ministre? Vient-elle assainir le secteur de l'enseignement supérieur en RDC?
Bien, Alain, je pense que une fois n'est pas coutume, lorsque nous débattons de ces questions sur votre radio, je voudrais féliciter le courage du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi? Parce que vous savez, le courage n'est pas le fort des politiciens, qu'ils soient congolais, africains, français, américains, etc. Les politiciens ont toujours fui leurs responsabilités en ne prenant pas les décisions difficiles qui dérangent. Alors, cette décision que le ministre vient de prendre, je profite de la présence de M. le professeur Saman pour rappeler que il y a déjà plus d'un an, il y avait un atelier organisé à Zongo par le ministre Makaire Mangou, qui à l'époque faisait l'intérim de l'enseignement supérieur et universitaire, qui consistait à discuter des voies et moyens de mettre en œuvre la loi cadre sur l'enseignement national que le président de la République venait de promulguer. Alors, parmi les recommandations qui ont été faites à Zongo, il avait été constaté avec stupeur un expert des Nations Unies de la Banque mondiale qui rendait compte à cet atelier avait exprimé une chose étonnante, que la République démocratique du Congo avait autant d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire que la Chine et les États-Unis. Donc, il a été décidé, recommandé plutôt, que toutes ces excroissances, c'est-à-dire cette multiplicité d'établissements d'enseignement supérieur universitaire qui croissait à longueur de mois, de jours et d'années, que ces excroissances soient supprimées et que les étudiants de ces établissements soient reversés dans les établissements d'enseignement supérieur universitaire reconnus par l'État, moyennant éventuellement une sélection. Donc, cette décision du ministre que nous saluons, c'est la première fois depuis bien longtemps que les hommes politiques ont le sens de la loi, l'esprit des lois. Cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Dans cet atelier, il a été préconisé les voies et moyens. Parmi les voies et moyens, il était prévu la suppression des excroissances des universités, instituts supérieurs qui publient dans le pays. Je pense que nous sommes, pour la première fois depuis bien longtemps, au cœur de l'assainissement réel de l'enseignement supérieur Et ma foi, puisque nous y sommes, il faut souhaiter que cet effort d'assainissement continue et on demande au ministre d'avoir encore plus de courage demain pour prendre encore des décisions qui puissent sauver l'enseignement supérieur et universitaire du Congo.
Professeur Moïla, qu'est-ce que vous répondez à Moïse Kiakwawa Kisaka de Kiavinyonge qui dit « Il faut noter que la multiplicité des institutions supérieures et universitaires en milieu rural qu'urbain répond bien évidemment à la situation sociale actuelle de la RDC ?»
Non, il a été expliqué tout à l'heure par Madame le professeur qui est au cabinet du ministre,
Nadège
que
Mondé.
Dans les années 80, 82, 83, il avait été décidé d'en finir avec l'Université nationale du Zaïre, l'UNAZA, et de créer une multitude d'universités compte tenu de la masse d'étudiants qui venaient de tous les horizons. Au lieu de les fixer seulement sur les trois campus, il a été donné non seulement la possibilité de créer de nouvelles universités, mais de permettre effectivement de tenir compte de cette croissance démographique. Savez-vous que le chef de l'État s'est interrogé il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'il faut une université de masse ou une université d'élite? À ces jours, je ne sais pas si la réponse a été donnée à cette question. Mais il ne faut pas confondre, comme il a été indiqué tout à l'heure, la possibilité d'adapter l'évolution de l'enseignement au volume de population qui accroît chaque jour et la qualité de l'enseignement et le respect de la loi. D'ailleurs, si vous prenez le décret que le ministre vient de publier, qu'est-ce qu'il dit? Il est attendu que la mauvaise pratique de créer des extensions et des auditoires délocalisés décrédibilise et désacralise le système éducatif du supérieur voulu efficace pour la régénération de l'élite congolaise de demain. Ben voilà, non seulement on a voulu des extensions, mais c'est la mauvaise pratique de ces extensions qui ne respectent aucune condition que la loi pose qui amène le ministre à son corps défendant de prendre des décisions de suppression de ces extensions qui sont en train, évidemment, de tirer vers le bas le système de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo.
Professeur, vous enseignez également dans certaines universités ici au pays. Vous arrive-t-il de prester dans ces universités dites non viables?
Depuis que ça fait une dizaine d'années que nous avons été sollicités dans le cadre de MIDA, qui demandait aux enseignants congolais de l'étranger d'aller prester dans le pays à titre gratuit pour donner un coup de main à ce pays qui nous a donné la vie et qui nous a fait enseigner, qui nous a vu venir dans l'enseignement. Le professeur Chaban que vous avez devant vous fut mon assistant quand j'étais étudiant. À la période où j'entrais à l'UNAZA, M. Chaban était encore assistant avant qu'il aille aux États-Unis. Donc, en revenant au Congo plusieurs années après, et en prenant la charge des enseignements, de mémoire, des thèses, nous avons voulu donner le meilleur de ce que nous pouvons pour le pays qui nous a vu naître et qui s'est sacrifié pour nous donner la formation que nous avons aujourd'hui. Il est vrai que, par éthique, je me suis interdit d'aller dans ces universités qui accroissent dans toutes les brousses du Congo pour la simple raison que je n'ai pas le temps. Et quand bien même j'aurais eu le temps, les enseignements qui me sont donnés et la charge officielle ne me permettent pas de me distraire pour aller de gauche à droite. Évidemment, il y a des collègues aussi qualifiés que moi qui font ce job sans lequel probablement tout le système se serait effondré. Dois-je vous rappeler que c'est grâce aux enseignants de l'État qui se dépensent à leur corps défendant jour
et nuit,
qui fait pour tourner encore d'une manière acceptable, toutes choses intempérées par ailleurs, l'ensemble des universités ainsi supérieures, privées et publiques de la République démocratique du Congo.
Mais merci, professeur.
Je ne me suis pas, à ce jour, laissé embarquer par cette vague.
Merci, professeur.
Je reconnaisse la dignité des collègues qui sillonnent le Congo.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Nadège Ngombe, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimai.
Bavon Mbujimukuna, de Mbujimai au Kasaï oriental. La mesure en soi est bonne. pour ramener nos institutions universitaires au standard international. Mais chez nous, cela est fait par clientélisme et favoritisme par les commissions qui viennent en province, agissant sans objectivité, car la viabilité est monnayée et non réelle. Souvenez-vous de l'époque Machako Mamba, qui était sur le même chemin et non compris. Aujourd'hui, on nous donne, au sortir des universités, des analphabètes à cause de cela. Nous proposons que l'on puisse faire la revisitation progressive de la viabilité dans ce domaine avec les experts, notamment de l'Église catholique, connue pour l'air sérieux, car le pays est plus grand.
Professeur, clientélisme, favoritisme dans le choix des universités.
Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que dans les deux arrêtés de son Excellence Monsieur le Ministre, il est dit dans les préambules qu'il a tenu compte d'abord de ses visites de travail effectuées dans quelques provinces sur terrain. Il a tenu compte également des rapports des conférences universitaires des différentes provinces et il a tenu compte également des données de notre direction qui a en charge les établissements privés et la direction qui est en charge les services académiques. Donc, je ne pense pas que les trois réunis ont été sujets à du clientélisme ou bien à de la subjectivité. Ce qui a été pris comme décision a été préparé d'une très bonne façon technique avant que le ministre ne puisse prendre cette décision. Mais permettez-moi un peu d'ouvrir une petite parenthèse pour donner quelques informations à nos auditeurs. Il s'agit des indicateurs essentiels de l'enseignement supérieur universitaire. Comme vous le savez, sans les chiffres, on ne peut pas faire une bonne planification. Le professeur Saman tantôt a dit qu'on avait un problème avec les nombres d'établissements, mais je peux lui dire que pour l'année académique 2013-2014, nous avons 827 établissements, dont 399 du secteur public. Le ministre est bien informé et il a un service statistique qui l'informe, qui lui donne les chiffres qu'il faut pour l'aider à prendre les bonnes décisions.
Alors d'où viennent par exemple les erreurs qu'a relevé le professeur Nsaman dans le fait qu'on ait cité certaines institutions qui n'étaient pas concernées ou qui n'étaient pas les bonnes dans la décision?
Non, ce ne sont pas des erreurs. Il a eu à le relever dans les positifs qu'il a dit de cette décision. Il n'est pas au courant que telle ou telle autre personne utilise le label CEPROMAD. Donc ce qui a été dit, effectivement, c'est une institution qui se dénomme bel et bien CEPROMAD, mais que lui ne connaît pas. Et il a salué cette décision en disant que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire l'a aidé au fait à démasquer ceux qui font usage de faux. Je pense qu'il a dû bien, comme il a dit, il a su reconnaître que la décision du ministre était la bonne.
Galvani de Mbujima, il dit la décision est bonne, mais elle tombe au mauvais moment, en l'occurrence au début de l'année académique. Que vont devenir les étudiants de ces 10 établissements fermés, professeur?
Oui, je pense que vous avez suivi le professeur Mahila tantôt. Il est revenu encore dans l'histoire de notre enseignement supérieur en disant qu'au forum de Zongo, il avait déjà été décidé de la fermeture des ces établissements non viables et que les étudiants concernés qui avaient cours dans ces établissements devaient être reversés dans les établissements d'enseignement supérieur déclarés viables, bien sûr sous concours. Cette décision ne tombe pas au mauvais moment, mais elle tombe au bon moment pour remettre de l'ordre et pour arrêter ce clientélisme, pour arrêter, comme l'a dit le professeur Saban, le beurre, entre guillemets, de ceux qui pensent que l'enseignement supérieur est un grand marché où on peut se faire de l'argent gratuitement.
Mais que dire de ces milieux où les gens qui sont difficiles d'accès et où les jeunes gens, les étudiants ont du mal à atteindre les universités, à agréer les universités dont vous parlez, dans lesquelles ils doivent être reversés?
Non, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. La politique des SEMAJ, elle avait été très bonne et elle a cibler les chefs-lieux et les districts là où on devait implémenter une nouvelle institution d'enseignement supérieur et universitaire. Mais ce qu'on constate maintenant, la prolifération, c'est ça. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui dérange. Mais je ne pense pas que ces jeunes gens-là vont manquer où aller à travers nos différentes provinces.
Patient Biamungu de Kinshasa, il faut rappeler qu'il n'y a pas 5 ans que le même ministère venait de procéder par la même action. D'où vient que des universités dites viables réapparaissent en cascade dans un laps de temps? Nous suggérons au gouvernement de monter des mesures contre la politisation de l'enseignement et faire un suivi permanent de l'évolution universitaire au lieu d'attaquer les conséquences qu'elle est cause. Professeur.
Oui, je dirais ceci. Je pense que je vais le répéter au fait. Je ne le dirai pas, je l'ai dit tantôt. Il nous faut à nous tous Congolais, de nous faire violence et de respecter les textes réglementaires. Dans toute société qui se respecte, je pense qu'il y a des règles qu'il faille respecter. Et au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, si les textes réglementaires sont respectés, je ne pense pas que nous allons assister à une telle prolifération d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire.
Alors,
on ne s'attaque pas à la cause, mais on veut s'attaquer. En fait, on s'attaque à la racine. Cela veut dire qu'on rappelle à tout le monde. Quand le ministre ferme, interdit de fonctionner, il rappelle à tout le monde qu'il faut respecter les textes en matière d'ouverture d'une institution d'enseignement supérieur universitaire.
Je prends cette réaction de Joseph Mukuna de Kinshasa avant de donner la parole à professeur Nsaman. Si les infrastructures étaient la raison de fermeture des universités, on devrait fermer même l'Unikin parce que les étudiants étudient même dans la brousse, l'ISTA où les étudiants ont du mal à suivre les cours, surtout à travers des baffles, professeur.
Oui, je pense qu'il y a un minimum qui est tout. Toujours un minimum qui est déclaré acceptable et un autre minimum qui est déclaré dans l'inacceptable. Je pense que toutes ces institutions, vous avez suivi, ça fait plus de 5, je crois, il y a eu 5 ans de cela déjà, que le président de la République, son excellence Joseph Kabila, a commencé à réhabiliter nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. C'est vrai, il y a des institutions qui ont été délabrées, mais il y a tout un plan du gouvernement pour la réhabilitation. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter l'inacceptable. Vous avez une pièce de 3 maisons et vous vous appelez université de X ou Y? Je ne crois pas.
Merci. Professeur Nsaman, nous prenons pour vous cette réaction.
Moi, c'est pour l'œuvre lourde en Badiki Goma, province du Nord Kivu. La décision du ministre est à saluer. D'ailleurs, le nombre des institutions fermées est encore insignifiant. Et les conditions que nous observons actuellement. Comme par exemple, vous ne serez pas étonné de voir des institutions universitaires fonctionner aux portes destinées aux magasins commerciaux, à côté de la route principale, voire même aux écoles primaires. Donc, ce qui est grave, la plupart de ces institutions appartiennent aux différentes autorités politico-administratives, notamment les députés, ministres et sénateurs, sans oublier les personnes les moins qualifiées pour dispenser les cours à ces institutions. C'est horrible pour l'éducation des futurs élites.
Voilà, honorable député professeur Nsaman, autorité politico-administrative à qui appartiennent ces universités, à vous de répondre.
Eh bien, je vous ai dit que je vais plus parler comme professeur d'université, mais si vous me poussez à parler comme député, je vais bien. Mais quelle que soit la situation, je vais être à mi-chemin pour essayer d'être le plus rationnel possible. Je crois que celui qui vient d'intervenir a pleinement raison. Mais je vais, d'entrée de jeu, vous dire, j'ai commencé les promenades avant que je sois député. C'est depuis 1982.
Ça, ce n'est que pour parler de vous, il y a des sénateurs, d'autres députés qui ont ouvert ces extensions à travers le pays.
Ça ne fait rien. Chacun prêche pour son église, mais je commence par moi-même, tout en sachant que c'est celui qui est visé dans ces cas précis, c'est Saman pour les promenades. En ce qui concerne le député, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des autorités, il y a des ministres, il y a qui veulent créer des universités. En fait, il n'y a aucune loi qui interdit à un privé de pouvoir initier une université. D'ailleurs, savez-vous que les plus grandes universités du monde sont les meilleures, sont privées. Savez-vous que même Louvain, savez-vous même comme l'université de New York, l'université d'Anvers, des grandes universités sont privées, si vous ne savez pas. Alors, il y a eu une idée ici, croyant que ce qui était public était meilleur. Mais meilleur, allons-y calmement. Quand on classe les 105, on classe les universités, les 100 meilleures universités africaines, où se trouvent nos meilleures? Nos trois là, où sont-elles? Quand on classe les 150 meilleures, où sont-elles qui sont parfaites? Savez-vous que dans les universités publiques, et celle qui est la plus critique de Kisangani a un seul docteur en droit pour toute une faculté, un seul à l'université de Kisangani. Il y a peut-être un deuxième, un troisième. Mais on dit que là, on peut former un docteur en droit, là où on a un seul professeur de docteur en droit, mais tous les grands professeurs qui viennent dispenser des enseignements à l'UPC, à l'UCC, on leur dit, quand ils sont à l'UNIKIN, ils sont intelligents spécialistes, mais quand ils descendent à l'UCC, ils cessent d'être intelligents, ils sont incapables de pouvoir diriger des thèses de doctorat, par exemple. Alors, je vous dirai tout simplement, il y a quelqu'un qui a parlé du clientélisme. Je dirai, c'est vrai. Quand vous dites, vous envoyez des gens en mission, vous dites, vous êtes aux frais des établissements qui vous accueillent. Ce type-là qui arrive, il dit, payez-moi d'abord 10 000 dollars de frais d'émission. Alors que les instructions académiques disent, on verse l'argent dans un compte en banque. Et quand vous dites, on doit verser dans un compte en banque, vous devenez l'ennemi numéro 1 et vous devez être bouffé. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ça, c'est un élément. De deux, vous êtes en train de dire, il faut parler des gens qui doivent. On a dit quand on devait composer d'un critérium pour le troisième cycle, on a dit on fait appel aux experts internationaux. On a des critères. Cet expert doit avoir dirigé au moins 5 thèses de doctorat. Mais il se fait que quand l'expert tourne le dos, ce sont ceux qui n'ont même pas fait les DA qui vont estimer qu'un article est rédigé par un professeur, une revue a composé des professeurs qui sont membres du comité scientifique n'est pas valable parce que lui estime que ce n'est pas ça.
En un mot, l'enseignement supérieur professeur en RDC est malade.
Elle est l'enseignement, mais pas encore mort. L'enseignement supérieur
dans un état comateux.
Non, a de l'avenir. Pour preuve, quand on a organisé l'audit organisationnel, la meilleure université cotée était une université privée, le gène de Mazeno. C'est dire qu'il y a des universités qui s'efforcent et qui avancent. Mais j'ajoute en terminant qu'il faut féliciter ce que le ministre est en train de faire.
Merci,
il
professeur.
Faut l'encourager, aller de l'avant,
merci,
mais il faut qu'on soit objectif.
Je vous redonne la parole tout à l'heure pour la conclusion. Professeur Moïla, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Les scandales de la ville de Beni au Nord Kivu. La question que tout le monde se pose est de savoir qui avait donné à ces établissements l'arrêté autorisant leur fonctionnement. Nous savons tous que la plupart des universités qui pullulent dans des provinces ont été créées par des grands baobabs politiciens qui se trouvent à Kinshasa et que ça sera donc difficile pour que cet arrêté du ministre soit appliqué.
Professeur, faut-il craindre que cette mesure ne soit appliquée?
Écoutez, vous savez, lorsque la loi de la République est violée, la moindre obligation, c'est de sanctionner ceux qui ont violé la loi. Ces universités, ces instituts supérieurs qui poussent comme des champignons dans toutes les brousses du Congo, ont été créés par quelqu'un ou par quelques-uns des Congolais. Maintenant que le ministre a courageusement pris la décision de suspendre ou à tout le moins de supprimer ces institutions, alors il est du devoir de la République de chercher les coupables, de les traduire devant les tribunaux et de les sanctionner pour avoir violé la loi, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Parce que lorsque
non seulement la foi, la République a été violée dans sa foi. Vous présentez soi-disant députés, sénateurs ou que sais-je encore, que vous avez la capacité de créer une université privée. On vous donne le titus par l'État. Et dans la réalité, vous n'avez aucun professeur. La plupart, ou sinon la quasi-totalité de ces établissements, n'ont pas leurs propres enseignants. Très peu de ces établissements d'enseignement supérieur universitaire ont des bâtiments. On peut dire, oui, l'université de Kinshasa ou de Kisangani, il y a beaucoup d'étudiants, c'est vrai. Mais il y a au moins des bâtiments. Il y a plus d'étudiants qu'il en faut, c'est vrai. Mais il y a au moins des bâtiments. Il y avait une proportion d'étudiants au nombre des bâtiments ou des places dans les bâtiments. On peut avoir un nombre d'étudiants qui reçoit des enseignements dans des conditions normales. On a des auditoires de 200-300 étudiants, on en a 800 ou plus. C'est le surplus qui crée le problème. On envoie à Paris, on envoie dans des grandes villes d'Europe et d'Amérique. Donc, c'est pas seulement le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants. Mais combien y a-t-il d'enseignants recrutés par tous ceux qui ont créé les établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo? Qui les paye? Si l'État congolais n'a pas laissé ses propres enseignants aller donner un coup de main dans ces établissements, il y aurait l'effondrement général de l'enseignement en République démocratique du Congo. Donc on peut féliciter le gouvernement congolais d'avoir laissé l'autorisation, sinon la possibilité à ses propres enseignants d'aller étaner, c'est peut-être le terme. Alors, si vraiment il y a des gens qui ont violé la loi, c'est le moment de l'Union de la République qui soit sévèrement puni pour que demain, alors, ils ne reprennent pas la même entreprise et créer encore d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire
professeur.
Qui sont à vivre et qui ne peuvent pas produire ce qu'on attend d'eux et par le pays et par les parents
professeur.
Qui envoient ses enfants dans une sorte de mouroir universitaire où il n'y a rien à gagner par le moment.
Alors, professeur, en guise de conclusion, quelle devrait être la prochaine étape pour vous, en un mot?
Ben, il faut souhaiter que le ministre qui a tous les dossiers devant lui, qu'il ait le soutien de son gouvernement et que, dossier par dossier, il puisse assainir ce secteur dont le chef de l'État lui-même a déclaré dans la loi sur l'enseignement national que l'enseignement, le savoir, la science et la technologie est un facteur de puissance pour la République démocratique du Congo, sans parler de l'émergence et du développement. Donc c'est le moment de prendre les choses à bras le corps.
Merci,
et de
professeur.
Finir le travail qui vient à peine de commencer.
Merci professeur. Professeur Nadège Ngomé, il y a Pedro de Kindou qui dit quel est le sort des étudiants qui sont gradués ou licenciés après la fermeture de ces universités et instituts supérieurs, seront-ils considérés comme tels alors que l'université a été fermée?
Ok, merci beaucoup pour cette question. Pour avoir un diplôme, en fait c'est le ministre d'enseignement supérieur universitaire qui signe les diplômes de ce secteur. Mais pour avoir un diplôme, il faut d'abord avoir un établissement qui est en ordre, qui a un agrément ou bien qui a une autorisation de fonctionner. Ils ont été formés dans des établissements qui n'étaient pas reconnus. Donc, ils n'ont pas de diplôme.
Et donc, ils ont passé toutes ces années pour rien.
Donc, ils ont été escroqués. Moi, je pense
intellectuellement.
Oui, intellectuellement. Ils ont été escroqués.
Alors, en guise de conclusion, professeur, qu'est-ce que vous dites à tous ces étudiants qui vous suivent à travers le pays et qui sont friands et qui attendent la suite?
Oui, ok. Je dirais d'abord que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, a placé cette année académique sous le signe de la refondation de notre système éducatif. Et il a fait appel à toutes les parties prenantes, donc les étudiants, les professeurs, les administratifs, que nous puissions nous tenir main dans la main pour réussir cette refondation de notre système éducatif du supérieur. Donc ça fait mal la décision qu'il a eu à prendre, mais cette décision est salutaire pour que nous puissions avoir un enseignement de qualité en République démocratique du Congo. Je souhaite annoncer aussi,
très rapidement.
Je souhaite annoncer qu'il a interdit de fonctionner des extensions, il a interdit de fonctionner des auditoires délocalisés, bientôt il va fermer les établissements qui sont non viables, et je pense que ça sera plus de 200.
Merci. Professeur Nsaman, un mot pour conclure.
Non, un mot tout simplement. Il faut féliciter les ministres. Allez-y vers l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Et je dirais tout simplement merci parce que Jusque-là, nous avons, les grandes universités ont pu reconnaître en nous attribuant les prix International Socrate Award.
Merci
bon,
professeur.
On continue, on travaille
voilà.
pour se construire.
C'est terminé par ici, Dialogue entre Congolais. Vous pouvez retrouver ces arrêtés sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Au revoir.